France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
C'est la première fois qu'ils se retrouvent physiquement depuis le début de la pandémie et c'est donc pour mieux se diviser. 3 jours et 3 nuits de sommet européen à Bruxelles et toujours rien ce matin. Les discussions reprendront cet après-midi. En jeu, le plan de relance de l'économie européenne, 750 milliards d'euros reposant sur une mutualisation partielle des dettes. La discussion, le désaccord, porte notamment sur la répartition entre subventions, des sommes que les États n'auraient pas à rembourser et prêts qui, par définition, alourdiront la dette publique de pays déjà en difficulté. Si Emmanuel Macron et Angela Merkel sont cette fois-ci du même côté, ils ont face à eux ces pays dits frugaux, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, Finlande, qui veulent des prêts plus que des dons et un droit de regard sur les réformes que s'engageront à mettre en œuvre les pays les plus en difficulté. C'est donc au minimum une certaine idée de la solidarité européenne qui se joue en ce moment. Certains parlent volontiers d'enjeux existentiels pour l'UE, de tournant du projet européen. Avec nous ce matin, Justin Weiss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, ancien directeur du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, selon vous, qu'est-ce qui se joue en ce moment à Bruxelles? Est-ce que l'on est dans une dramatisation excessive lorsque l'on dit que c'est le projet européen, l'existence même de l'UE qui est en question?
Je pense qu'on est plus dans les péripéties d'une négociation. Il y a toujours eu de la théâtralité autour des sommets européens qui se sont en gros chacun conclus d'une bonne façon en réalité. Donc je pense qu'il ne faut pas être excessivement inquiet parce que les intérêts finissent toujours par prévaloir. Or, il est dans l'intérêt de tous de trouver une solution, une bonne réponse, un bon équilibre entre les contraintes des uns et des autres. Et on a en effet d'un côté des pays frugaux dont les dirigeants ne peuvent pas revenir devant leurs électeurs dans quelques mois ou dans quelques années en leur ayant donné l'impression qu'ils bradaient l'argent de leur pays, des Pays-Bas, de l'Autriche, etc., aux pays du Sud, en gros. Et d'un autre côté, il y a évidemment les pays du Sud, l'Italie et d'autres, qui ont absolument besoin de cet argent, qui ont été les plus durement touchés et qui peuvent à bon droit prétendre à la solidarité européenne.
Donc finalement, c'est comme d'habitude, sauf qu'on pourrait se dire qu'on est dans un moment justement qui n'a rien d'habituel, dans un moment exceptionnel, et que là, pour le coup, on aurait peut-être pu penser que ça allait se passer autrement cette fois-ci.
Oui, mais je pense que les intérêts électoraux, évidemment, pèsent beaucoup. Mark Rutte ne peut pas se permettre de céder si facilement. C'est décevant, évidemment, d'un certain point de vue, parce que si l'on prend un pas de recul, on voit que ce même Mark Rutte avait dit des choses, avait prononcé notamment un discours en 2019 qui a été commenté, repris par le Grand Continent en ligne récemment, cette revue en ligne, qui soulignait bien l'importance de la puissance européenne, de la réelle politique. C'est-à-dire qu'il avait un discours qui n'était pas très différent de celui d'Emmanuel Macron sur la souveraineté européenne et la nécessité que l'Europe devienne une puissance au sens un peu plus traditionnel que jusqu'à présent. Or, évidemment, la puissance, c'est bien, les moyens de la puissance, c'est mieux. Or, si l'Europe est un champ de ruines parce que la solidarité y aura été insuffisante, il n'y aura pas de puissance européenne. Donc c'est vrai que c'est en même temps un peu décevant. Et donc on peut espérer que finalement un accord soit trouvé et qu'il reste suffisamment ambitieux pour répondre aux aspirations à la solidarité des pays du Sud.
Ce Mark Rutte, premier ministre néerlandais, donc, qui effectivement avait dans un premier temps été présenté comme un allié possible d'Emmanuel Macron dans cette volonté de faire bouger l'Europe et dont le parti, en tout cas, siège au Parlement européen avec le groupe qui soutient Emmanuel Macron. Il y a quand même là quelque chose d'étrange de les voir s'affronter sur des choses aussi fondamentales tout de même en ce moment, alors que leur parti siège ensemble au Parlement européen, alors qu'ils étaient censés être des alliés pour faire bouger l'Europe.
Oui, c'est vrai, on pourrait faire la même remarque d'ailleurs de sa proximité avec Angela Merkel et avec plus généralement avec l'Allemagne, parce qu'après tout, le pays qui paiera le plus en volume en tout cas, c'est l'Allemagne. Quant à sa proximité avec Emmanuel Macron, elle est vraie notamment, elle est vraie surtout sur ces sujets sujet de souveraineté européenne et de disons d'ambition pour l'Europe. Mais évidemment, une fois que le contribuable néerlandais entre en jeu, là, et c'est ça toute la complexité de l'Europe, et c'est ça qui obère un peu sa capacité à agir, à décider rapidement, dès que ce contribuable donc entre en jeu, et ben Mark Rutte évidemment doit faire attention à sa propre position nationale et à sa réélection.
Vous parliez, Justin Weiss, de l'Allemagne. On a beaucoup commenté au mois de mai le virage, la mue d'Angela Merkel sur cette question de la dette. Et là, on comprend finalement aussi qu'il ne suffit pas que la France et l'Allemagne soient d'accord pour que ça fonctionne. On n'est pas habitué à voir les Pays-Bas tout bloqués, mais c'est aussi ça l'Europe.
Oui, c'est vrai, c'est une coalition relativement nouvelle, pas complètement nouvelle, mais relativement nouvelle qui s'est fait jour ces derniers mois autour de cette question. Cette fracture nord-sud de l'Europe n'est pas nouvelle, hein, c'est évident, on l'avait vu jouer, en particulier au moment de la crise de l'euro, à partir de la crise de 2008 et notamment dans les années 2010 à 2012, et on avait vu comment elle opposait en effet, avec toutes ces caricatures, des pays du Club Med, des pays radins, etc.
Les cigales, les fourmis, etc., etc.
Exactement. Mais en effet, la grande différence, et vous le disiez à l'instant, c'est que l'Allemagne était à l'époque fermement du côté du Nord, alors que là, en effet, c'est un revirement historique, vous l'avez dit, et c'est vrai, d'Angela Merkel, et c'est assez d'ailleurs étonnant de voir Mark Rutte s'opposer à Angela Merkel, compte tenu de la proximité, disons, des systèmes économiques allemands et néerlandais, de leur proximité économique, de la densité de leurs échanges, de leur proximité politique. Mais en effet, c'est un peu une nouvelle Europe. Et il faudra veiller évidemment à ce que, une fois l'accord acquis, et il le sera soit dans les jours qui viennent, soit un peu plus tard au cours de l'été, ça ne laisse pas un goût trop amer aux petits pays qui seraient marginalisés, qui se seraient sentis écrasés par le train, par la locomotive franco-allemande, disons. Mmh. Et donc, voilà, le fait que le franco-allemand remarche bien, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas non plus que ce soit un directoire à deux uniquement, parce que ça risquerait d'avoir des conséquences négatives sur l'attitude des petits pays à l'avenir.
Et il y a peut-être de ça aussi d'ailleurs dans la réaction des pays comme les Pays-Bas, justement, de montrer peut-être finalement que le revirement historique d'Angela Merkel ne suffit pas à tout régler en quelques heures.
Oui. D'ailleurs, on a souvent dit que, à partir du moment où les Français et les Allemands se mettaient d'accord, l'Europe pouvait avancer, parce que l'Allemagne et la France couvraient tout le spectre des opinions possibles et des options possibles. Or, on voit bien que ça n'est plus le cas, puisque Angela Merkel s'est rapprochée de la France, laissant une partie du spectre découvert, et c'est à Mark Rutte qu'il revient de l'incarner en quelque sorte maintenant, c'est-à-dire celle d'une plus grande rigueur budgétaire et celle aussi d'une méfiance vis-à-vis d'une trop grande mise en commun, je n'ose pas dire fédéralisation parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais une plus grande mise en commun, en tout cas des ressources économiques.
Pour vous, là, on n'est pas dans ce saut fédéraliste qui a été décrit
Non, je pense. Enfin, si, il y a un progrès, et la décision d'Angela Merkel ouvre la voie vers un progrès, puisque emprunter ensemble, c'est un pas de plus vers une forme d'union fiscale qui manque, on le sait, à la construction de la zone euro. Et donc, il y a un vrai progrès, un saut. Je ne sais pas. Les sommes en jeu restent relativement modestes. On parlait de 500, maintenant on est probablement à 400 milliards d'euros qui seront spécifiquement en subvention.
De subvention, non remboursable.
Sur les 750. Voilà, on a un PIB de l'Union européenne qui est de plus de 18 000 milliards d'euros. Donc on reste dans des sommes tout de même assez modestes. Mais en effet, sur le plan du principe, c'est important. Et il y a un progrès. Un progrès fédéral, ça je ne sais pas, c'est un peu excessif de le dire. Mais en tout cas, ça permet d'ajouter un outil à la panoplie de la puissance européenne.
Alors vous le disiez, on retombe encore toujours dans ce clivage nord-sud. Là aussi, on aurait pu imaginer que ça se passe différemment cette fois-ci, d'autant que effectivement l'Italie, l'Espagne ont été particulièrement touchées par la pandémie, mais la France aussi, la Belgique aussi, la Suède aussi, qui pourtant est de l'autre côté, si on veut schématiser, du côté de ces pays frugaux. Donc là, on voit également que finalement, le fait que l'Europe ait été touchée par la pandémie, sans distinction, peu importe la géographie, finalement, ça ne change rien au clivage qui revient toujours, comme en 2008-2009, de cette fracture nord-sud. On peut vraiment pas en sortir, en fait.
Oui, je pense les attitudes nationales, les philosophies politiques, les cultures nationales, quand en ce qui concerne le rôle de l'État, la taxation, la dépense publique, la répartition, bref, le contrat social qui est propre à chacun des 27 membres de l'Union européenne, ça sont des réalités de longue durée. Et c'est vrai qu'une crise comme celle du coronavirus peut bouleverser et peut cristalliser de nouveaux arrangements éventuellement, mais enfin pour l'instant c'est pas le cas. Et ce qui demeure, c'est l'attitude de base des par exemple des Néerlandais, et donc des électeurs néerlandais, c'est la façon dont ils conçoivent leur rôle, et puis également, et ça c'est important de le dire, la façon dont ils perçoivent disons le gain européen, parce que ce qu'on a vu dans tous les sondages d'opinion des dernières années, c'est une opinion publique européenne qui est contente de l'UE, qui ne veut pas la quitter, qui ne veut pas imiter le Brexit. Il n'y a aucun pays qui se rapproche du cas britannique, même si les Italiens ont été très contrariés par ce qui s'est passé, on peut les comprendre, mais donc dans un état d'esprit un peu différent, mais qui en même temps ne veulent pas voir des progrès de l'Europe, ne veulent pas voir ce saut fédéral en fait. Hein, et on trouve bien cette dualité de l'Europe. L'Europe, c'est plus qu'une organisation interétatique internationale. On partage des tas de choses, à commencer par une monnaie commune, mais ça n'est pas encore un pays fédéral, et les citoyens européens pour l'instant ne veulent pas voir arriver un État fédéral. Ils sont relativement satisfaits de l'équilibre qui s'est produit. La crise du coronavirus, je l'espère, comme les autres crises, permettra de faire progresser l'Europe et de lui faire acquérir quelques-uns des atours dont elle manquait. On a vu que ça se passait à chaque crise, qu'à chaque fois il y avait des sommets européens de dernière minute qui se terminaient très tard pendant la nuit, mais que finalement on y parvenait, on a surmonté la guerre dans les Balkans, la crise de 2008, la crise de l'euro, la crise des migrants, et à chaque fois l'Europe s'en est trouvée renforcée, sans forcément un saut fédéral très marqué, mais à chaque fois en ajoutant un peu plus à sa capacité de résister au vent violent, et toujours avec beaucoup de critiques et d'hésitations, mais qu'à un cas, la construction continue.
Toujours est-il que là, l'enjeu de ce qui se passe en ce moment à Bruxelles, donc on entend que vous êtes quand même plutôt confiant sur la capacité des 27 à trouver un accord sur ce plan de relance. Néanmoins, le fait que ça dure comme ça, le fait d'afficher ces divisions au grand jour, quand bien même il y aurait une part de dramatisation, de jeu de rôle, il y a quand même quelque chose qui est donné à voir. Et Charles Michel, le président du Conseil européen, disait hier soir encore attention à ne pas montrer le visage d'une Europe affaiblie en elle-même, mais aussi affaiblie aux yeux du reste du monde. C'est aussi ça qui se joue, qui est tout de même important dans le contexte actuel.
Oui. Alors, je serais un peu plus prudent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de montrer ses muscles. Regardez comme je peux décider des vite. On sait bien que cette lenteur intrinsèque à la construction européenne, hein, encore une fois, il faut faire ce lent travail d'accorder tout le monde. C'est un problème. C'est un défaut sur la scène internationale. C'est aussi un atout. C'est aussi un atout parce que on sait qu'une fois décidées, les décisions européennes sont appliquées. Ces mesures sont prises, qu'elles sont puissantes, qu'elles jouissent d'un grand consensus, et donc pour des choses importantes dans le domaine économique et financier, elles ont un poids que n'ont pas forcément d'autres décideurs. C'est plutôt dans les domaines où il faut décider plus rapidement, dans les domaines disons géopolitiques ou autres, que c'est un problème. Mais sinon, il faut bien voir qu'il y a cette ambivalence de la décision européenne, à la fois en effet un problème pour aux yeux des autres, et en même temps la puissance qu'acquiert cette décision par le consensus dont elle jouit une fois qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors, en gros, c'est vrai que c'est sûr que ça fait beaucoup de travail pour les journalistes, beaucoup de nuits blanches, et c'est pas les atours habituels de la puissance qu'on s'attend à voir.
Alors, ce qui est devant l'Europe aussi, c'est tirer peut-être plus largement les enseignements de cette crise, et notamment il y a plusieurs grandes voies européennes Leyen, Justin Weiss, qui appelle à la construction d'une Europe sanitaire, d'une Europe de la santé, qui serait aussi peut-être une façon de s'affirmer comme puissance et de marquer une forme de souveraineté européenne. Est-ce qu'on est capable de faire ça quand on voit malgré tout à quel point chaque pays reste attaché à sa souveraineté et en particulier sur ces questions sanitaires, ces questions de santé?
Oui, ces questions sanitaires font vraiment partie de celles qui restent au noyau de la souveraineté, au cœur de la souveraineté de façon très, très impressionnante. Et on a vu, non pas nécessairement des fermetures de frontières à proprement parler, mais enfin en tout cas des arrêts très larges de mouvements entre pays qui ne laissaient filtrer que peu de monde dans le plus dur de la pandémie, et donc ça reste en effet une faculté que les États veulent exercer seuls. Oui, il y a beaucoup à faire. En fait, il y a beaucoup de mises en commun à faire, il y a beaucoup de répartitions. On a vu les quelques semaines d'épisodes de guerre des masques un peu ridicules, qui correspondaient au fond à une logique assez simple, c'est que chaque État cherche à protéger ses citoyens. Mais quand on prend un pas de recul et qu'on regarde la façon dont l'épidémie a touché, par exemple, très violemment la Lombardie, mais beaucoup moins la Vénétie, comme elle a touché la région Grand Est, mais beaucoup moins la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, on voit bien que la logique purement nationale, pour le coup, n'a pas été respectée par la pandémie, et que davantage de mise en commun des ressources, du matériel médical, et également des consignes sanitaires auraient été bénéfiques, auraient permis en effet d'aller plus vite. Je pense que l'Europe saura aussi en tirer les leçons. Et également, je dirais, créer autre chose qui est, en effet, enfin, c'est ce que j'attends de l'Europe, être capable de s'élever au-dessus de ce continent européen et de jouer le rôle qui est le sien, le rôle de l'Europe. C'est-à-dire, le rôle, le message européen, c'est celui de la coordination entre pays, c'est celui qui part du constat qu'il n'y a qu'une seule santé mondiale, qu'il n'y a qu'un seul Internet, qu'il n'y a qu'un seul climat, qu'une seule biodiversité, et que on ne peut pas s'en tirer seul. C'est la leçon qu'on a tiré, disons, de l'histoire européenne, et c'est une leçon qui est valable au niveau mondial. Et donc, ce qu'il faut améliorer avant tout, c'est la capacité du monde à gérer ça, c'est en effet renforcer l'OMS, c'est trouver des moyens pour ne pas être aussi mauvais à la prochaine pandémie qu'à celle-ci.
Et nous en parlerons après le journal de 8h en particulier, mais tout de même, cette idée effectivement au niveau mondial, mais aussi à l'échelle européenne, de ce que certains ont appelé l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on s'est bien rendu compte que nous étions tous liés les uns aux autres à toute échelle, et en même temps cette souveraineté exacerbée. Tout de même, comment on gère cette tension qui se pose effectivement à l'échelle du monde, mais déjà même à l'intérieur même de l'Europe?
Alors ça dépend des domaines. Dans certains domaines, on a su faire. Regardez, il s'est tout de même passé de deux choses très importantes sur le plan européen qui relèvent du judiciaire en fait, ou du juridique, disons. La semaine dernière, à la fois la décision d'invalider l'amende record qui avait été infligée à Apple, d'une part. Alors ça qui en effet peut être vu comme un revers, qui est à mon avis un revers provisoire, parce que l'idée que les grandes entreprises de la tech doivent payer des impôts normalement, je pense que cette idée demeure et on finira par trouver la bonne formule. Puis deuxième décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la décision d'invalider le bouclier, le Privacy Shield, qui avait été élaboré en 2016, et on voit que l'Europe est un ordre juridique parce que cette décision donc renverse, ou disons annule les accords par lesquels les données européennes partent essentiellement vers les États-Unis. À l'époque, c'était à 80%, pour y être traités et revenir, parce que ces données, donc nos données personnelles, ne bénéficient pas d'une protection suffisante aux États-Unis. C'est ce que vient de dire la CJUE. Évidemment, c'est tout un modèle économique qui s'effondre, qui rappelle que l'Europe est relativement dépendante, et une sorte de colonie numérique pour les États-Unis. Or, cette décision-là rebat les cartes. Les données continuent à circuler, mais maintenant, il va falloir trouver d'autres arrangements pour que nos données soient protégées. Et donc, j'en termine là. Dans certains domaines, on voit bien que cette interdépendance est plutôt bien gérée, que nos intérêts sont bien défendus par l'Europe, et on peut souhaiter que ça se renforce et que ça touche à d'autres domaines où, en effet, pour l'instant, l'union face à cette interdépendance n'est pas très bonne.
Alors, vous le disiez, effectivement, cette décision de la semaine dernière, du tribunal de l'Union européenne, qui a jugé que la Commission avait réclamé à tort à Apple, en août 2016, le versement de 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande. Les juges ont annuler cette décision. Nous parlions tout à l'heure de fragilité, de faiblesse, de montrer un visage faible. Là, pour le coup, tout de même, ce genre de décision, ça n'est pas très bon pour l'image de puissance de l'Union européenne.
Là encore, je ne sais pas, parce que ça rappelle tout de même, dans un monde qui en est de plus en plus dépourvu, que l'état de droit, ça compte. Ça rappelle qu'on est un ordre juridique. Et d'ailleurs, on remarque que dans les turbulences très fortes de la politique américaine en ce moment, la Cour suprême demeure un des piliers institutionnels qui résiste à cette espèce de chaos et cette folie de l'exécutif, de Trump, en fait, de la Maison-Blanche. De la même façon, en Europe, on sait qu'on est régi par un ordre légal qui est respecté par un ordre juridique et que celui-ci peut s'opposer, y compris aux volontés de l'exécutif, quel qu'il soit, que ce soit la Commission ou les États, et qu'il faudra trouver, il faudra aux politiques trouver d'autres moyens de parvenir à des fins qui sont très très légitimes, hein, que Apple paye, disons, des impôts de façon comparable avec d'autres entreprises européennes qui font leurs affaires en Europe, mais que au moins tout le monde est protégé par cette justice de l'Union européenne.
Merci Justin Weiss, directeur du Forum de Paris sur la paix. Nous vous retrouvons après le journal de 8h et notre rendez-vous avec le cahier d'été de Libération.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h19 et nous retrouvons notre invité Justin Weiss, historien, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix, ancien directeur du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, le CAPS, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous avons parlé avec vous, Justin Weiss, avant 8h de ce sommet européen qui n'en finit pas, 3 jours, 3 nuits. Pas encore d'accord sur le plan de relance à 750 milliards d'euros sous forme de subventions et de prêts aux pays touchés par la pandémie. Les discussions reprendront cet après-midi. Nous allons à présent élargir cette discussion. Justin Weiss, la troisième édition du Forum de Paris sur la paix est prévue pour le moment, en tout cas du 11 au 13 novembre. Elle est intitulée « Une troisième édition pour rebondir vers un monde meilleur ». Croyez-vous, Justin Weiss, au monde d'après ? Et si oui, comment le voyez-vous ?
Alors, l'objectif, je reviens un tout petit peu sur les objectifs initiaux du forum, c'est de répondre à tous ces défis qui nous touchent au quotidien, les questions climatiques, les questions, je sais pas, de cybersécurité, de migration, et qui ne sont pas passibles de solutions purement nationales. C'est pas une politique qu'on peut faire. On ne peut pas régir l'internet depuis la France. On ne peut pas régler la question du climat depuis la France, etc. Et donc l'idée, c'était à un moment en 2018 où il apparaissait clairement que le multilatéralisme, cette capacité de coordination entre pays, était très affaiblie. Il s'agissait de faire quelque chose pour retrouver ce chemin du multilatéralisme, donc par définition entre États, mais aussi l'élargir à d'autres acteurs, parce que la réalité de la société internationale, c'est qu'il y a bien d'autres acteurs. Regardez, prenez la pandémie de Covid-19, on voit bien que, bien sûr, il y a les États qui ont repris la main très largement, il y a l'OMS, qui est l'émanation de ces États, ce qui n'est pas sans poser des problèmes, peut-être qu'on y reviendra.
On en parlera.
Mais il y a aussi d'autres acteurs. Il y a les fondations philanthropiques, à commencer par la fondation Gates, qui est un acteur de politique publique majeur. Il y a des tas et des tas d'ONG, il y a des banques de développement, il y a des agences de développement, il y a énormément d'autres acteurs. Et l'idée du Forum de Paris sur la paix, c'était de rassembler en un seul lieu tous ces acteurs, de faire une sorte de Davos de cette coordination, du multilatéralisme, pour pouvoir avoir un impact à travers des projets, des initiatives que l'on sélectionne et qui sont présentées à Paris en novembre, donc chaque année au mois de novembre, pour pouvoir avancer dans cette coordination, et on a fait quelques avancées concrètes très notables sur la cybersécurité ou sur d'autres questions. C'était ça l'idée. Et donc la question du monde d'après, j'y arrive maintenant, évidemment se pose à nous. Alors en fait, à cette édition, on va travailler sur les trois horizons de temps, c'est-à-dire à la fois sur la réponse à la crise, et on est en train de sélectionner beaucoup de projets très intéressants qui peuvent être reproduits ailleurs de réponse à cette crise, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, etc. Sur le moyen terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on revient à l'état initial, la fameuse résilience dont on parle, et puis en effet à réfléchir, savoir quel système productif on reconstruit. Et ça, c'est très important dans nos réflexions.
Vous avez signé le 27 mai dans Le Monde une tribune dans laquelle vous expliquiez que le renforcement des États, très commenté au début de la pandémie, était un trompe-l'œil, et vous étiez plutôt moins pessimiste que d'autres sur l'avenir du multilatéralisme. Est-ce toujours le cas ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que la crise, la pandémie a démontré que les attitudes de rejet de toute coordination internationale, de rejet idéologique du multilatéralisme, hein, qui est très très forte dans les mouvements populistes, hein, c'est Trump, c'est Bolsonaro, rejet de la COP21 et des accords climatiques, rejet de départ de l'OMS, rejet de tout ce qui avait fait la, disons, la substance et les quelques avancées. Il faut bien voir qu'on vit un moment de recul du multilatéralisme qui s'est accéléré au cours des derniers mois avec la pandémie, mais que la raison pour laquelle il existe, pour laquelle cette coordination entre États et au-delà avec d'autres acteurs est nécessaire, demeure, et elle est même renforcée en fait chaque jour. Regardez, on parlait tout à l'heure de cette mission des Émirats Arabes Unis qui ont lancé une mission d'exploration vers Mars. C'est passionnant, d'abord parce que c'est la première exploration spatiale d'un pays arabe, et ensuite, et il m'a été donné de discuter avec le chef de la mission spatiale des Émirats, parce qu'évidemment, ça pose un grand problème de gouvernance mondiale. Ça paraît un peu lointain l'espace, mais en fait, on en dépend tous les jours. On estime qu'à peu près 15% de l'économie mondiale dépend de l'espace, dépend des satellites, de communication, c'est ça ce qui donne l'heure à l'ensemble des opérations économiques et financières. Bref, on en dépend. Or, cet espace-là, l'espace extra-atmosphérique, est sous-gouverné, sous-régulé. Et qu'est-ce qui doit décider? Idéalement, les Nations Unies. Oui, mais les Nations Unies, pour l'instant, n'arrivent pas à se mettre d'accord. On reste sur un traité, celui de 1967, qui est assez léger. Et on sait bien qu'il y a des gros problèmes qui se posent avec la multiplication, notamment des constellations de satellites lancés par des acteurs privés, et qu'il faut de l'ordre dans tout ça, qu'il faut de la gouvernance mondiale. Et c'est ça qu'on vise à faire. Et donc, oui, je pense qu'on peut revenir vers davantage de multilatéralisme.
Et justement, je reviens donc à cette idée dont on parlait aussi tout à l'heure d'interdépendance, rivalité exacerbée et en même temps enjeux globaux. Comment on gère cette tension? Qui la gère? Et donc, si on parle d'enjeux globaux, effectivement, on parle de gouvernance mondiale. Mais qui alors?
C'est tout le problème. On voit bien qu'on est dans une phase où les États se ressaisissent de leur souveraineté et où très souvent les électeurs veulent avoir un responsable qui est celui ou celle qu'ils élisent, et que donc on a cette forme de crispation là. Mais de ce que j'essayais d'expliquer dans cette tribune, c'est que la souveraineté n'est pas l'ennemi.
Incompatible.
Avec le multilatéralisme. Au contraire, elle est même cette souveraineté fondatrice du multilatéralisme, parce qu'il faut qu'il y ait ces 193 États, plus ou moins, à l'ONU, qui puissent discuter, qui puissent agir, qui puissent avoir une signature et qui puissent se mettre d'accord pour gouverner. Simplement, il faut aller au-delà de cette souveraineté et pouvoir en discuter. Et il y a un rôle important de la prise de responsabilité, du leadership. Tout cela dépend beaucoup. Alors, en particulier, il va y avoir, juste avant le prochain Forum de Paris sur la paix, début novembre, les élections américaines. Il est certain que beaucoup dépend de l'attitude des quelques grands pays qui donnent le là, disons, au système dans son ensemble.
On a l'impression, justement, que ces élections aux États-Unis, elles bloquent un peu quand même tout, que tout le monde est en tout cas dans l'attente de qu'il est difficile de réformer, de parler de multilatéralisme, de gouvernance mondiale, tant que ces élections n'ont pas eu lieu aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu là, justement, le risque peut-être de perdre du temps, ou en tout cas de devoir attendre comme ça, d'être suspendu à ce que donnera cette élection?
Il est certain que l'acteur américain est très important par son poids, par le poids qu'il occupe dans les organisations nationales. À l'OMS, par exemple, oui, à l'Organisation Mondiale de la Santé, c'était le premier acteur avant qu'il ne décide de se retirer, de quitter. Et donc, c'est très important. Alors, je tempérerai simplement un peu cette idée-là en disant qu'il y a beaucoup d'exemples où l'on a vu que l'on pouvait contourner les États-Unis, lorsque les États-Unis eux-mêmes se détournaient du multilatéralisme. C'est le cas de la COP21 où les objectifs ont été maintenus et presque personne n'a suivi Trump dans sa décision de quitter la COP21. Ou encore à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce cette fois, où l'on voit que l'on arrive à contourner les manœuvres américaines pour, bloquer l'organe de règlement des différends, ou plutôt sa cour d'appel. Donc on voit qu'on arrive à trouver. Mais en fait, on voit bien que le multilatéralisme ne progresse plus, que là où on devrait trouver des règles en commun, des modes d'action, des modes d'organisation entre États et avec d'autres acteurs, ça ne marche plus bien. Et donc, en effet, il est vrai que début novembre, une décision importante sera prise par les électeurs américain à cet égard.
La gouvernance mondiale de la santé, donc pour être sur un exemple précis avec l'OMS, beaucoup de critiques et en même temps, comment faire mieux? Beaucoup ont dit aussi, l'OMS, elle n'est finalement que ce que ses États membres lui permettent d'être. Et on retombe toujours sur cette même difficulté.
C'est exactement ça. On avait vu ça au moment d'Ebola. On l'a vu au mois de janvier avec le début de la crise du nouveau coronavirus, lorsque les représentants africains en 2014, et là les représentants chinois, ont essentiellement restreint les informations qu'ils voulaient bien donner à l'OMS. Or, l'OMS étant entièrement interétatique, dépend de ses représentants nationaux. Alors, bien sûr, elle a d'autres sources, elle a d'autres oreilles, disons, qui traînent. Et c'est une des raisons pour lesquelles la direction de l'OMS a fait un peu la danse du ventre vis-à-vis des Chinois. C'était aussi pour soutirer davantage d'informations. Mais on voit bien qu'il y a une nécessité de réforme pour faire mieux la prochaine fois. Il y a plusieurs options dont on discutera notamment au forum de Paris sur la paix de novembre, puisque on aura tous les principaux protagonistes de cette question de la gouvernance de la santé.
Alors, la Chine, justement, Justin Weiss, c'est ce que ce monde d'après dont on parle, il risque d'être un monde de nouveau de blocs avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine. Beaucoup voient ça se profiler en ce moment. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Oui, c'est un risque et ce sera certainement une réalité parce que il y a des phénomènes qu'on ne change pas et la montée en puissance d'un État, d'un pays, comme on l'a vu par le passé, dans un système occupé, disons régi et largement garanti par une autre puissance, donne forcément des frictions. Alors il faut espérer que ces frictions seront mieux gérées qu'auparavant, qu'à la fin du 19e siècle par exemple, ou que dans les années 30, évidemment. Et que l'on arrive à un minimum de d'entente et justement de respect des règles. Mais il est certain qu'on peut craindre que cette rivalité sino-américaine n'empoisonne les efforts justement d'une meilleure organisation mondiale, de plus de multilatéralisme. On voit que les organisations multilatérales deviennent à part entière un champ de bataille entre États-Unis et Chine, que les très grands progrès chinois des dernières années sont largement faits d'ailleurs de l'abandon de facto par les États-Unis des positions qu'ils occupaient parce que les États-Unis se détournent du multilatéralisme par choix idéologique. Et ça, c'est un des grands périls pour l'avenir. Raison de plus pour essayer de reconstruire cette coordination avec d'autres que des États. Et c'est donc ce qu'on essaye de faire au Forum.
Et raison de plus aussi, peut-être, on en revient au début de notre discussion, pour que l'Europe puisse s'affirmer et jouer ce rôle de puissance d'équilibre entre justement ces deux gros blocs.
Absolument, et c'est très important de sortir de cette crise et de la négociation actuelle, et ça je pense que ça sera le cas avec une Europe renforcée. L'Europe qui doit à la fois, et c'est ça toute la difficulté, à la fois affirmer sa souveraineté et en avoir les moyens, et ça c'était le sens des discours d'Emmanuel Macron des dernières années, c'était l'idée que l'Europe devrait jouer d'égal à égal avec les autres grandes puissances, faute de quoi ses intérêts seraient piétinés, mais en même temps, ne pas oublier d'où elle vient et le message qu'elle porte, c'est-à-dire justement, c'est le message du multilatéralisme. C'est-à-dire ce qu'on a réussi à faire en interne, en européen, cette conciliation lente des intérêts, cette acceptation de la diversité, tout ça, il faut, c'est le message qu'elle doit porter à un moment où les grandes puissances portent des valeurs et des messages de plus en plus égoïstes, de plus en plus refermés sur eux-mêmes, de plus en plus introvertis. L'Europe propose de la régulation, de la mondialisation, propose de l'aide au développement et propose un monde qui est tout de même un peu meilleur que celui vers lequel on semble s'orienter.
Merci beaucoup, Justin Weiss, fondateur et directeur général du Forum de Paris sur la paix. Et nous suivrons évidemment les suites de ce sommet à Bruxelles. Merci à vous d'être venu ce matin sur France Culture. Il est 8h30.